France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. En 1991, Daniel Schick recevait à son micro, sur l'antenne de France Musique, l'écrivaine et journaliste Edmond Charleroux pour une série de 5 émissions intitulée « Discothèque privée ». Je vous propose d'écouter aujourd'hui le 5e volet de ces entretiens consacrés au Festival Lyrique d'Aix-en-Provence, l'un des chapitres majeurs de la vie d'Edmond Charleroux, puisqu'elle en fut non seulement l'un des témoins de la première heure, mais aussi l'une de ses plus ferventes ambassadrices.
Bonsoir. Femme de Marseille, Edmond Charleroux est aussi une femme d'Aix. Depuis le départ, avec quelques amis, elle a toujours servi cet événement. Aujourd'hui, elle est membre du conseil de surveillance du festival. À Aix, elle a inspiré des rencontres, dissimulé des fous rires, essuyé quelques larmes, imprimé à jamais d'immenses souvenirs. Aix est une partie de sa vie, un écrin installé là, en plein milieu de sa discothèque privée, juste en face de son cœur. C'est donc au Festival d'Aix qu'est consacrée cette dernière rencontre avec Edmond Charleroux. Et c'est à Marseille que nous allons rejoindre cette femme écrivain, cette femme engagée, cette femme tombée en amour avec la musique il y a très longtemps, un amour qui n'a jamais connu d'orage. Edmond Charleroux et la musique ne se quittent jamais. Charleroux, vous n'êtes pas sans savoir qu'à 35 km de chez vous, il y a un festival qui est celui d'Aix-en-Provence. Et je crois que dès le départ, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'années, vous étiez déjà là. Alors, est-ce que c'était déjà un festival sérieux, important, qui comptait, professionnel, terriblement professionnel?
Non, c'était tout à fait le contraire. C'est né de l'initiative d'une femme qui a eu un rôle considérable à Marseille, qui s'appelait la comtesse Pastré, qui était un mécène, et qui a eu l'idée de dresser des tréteaux, et je dis bien des tréteaux, pas une scène, dans un angle de la cour de l'archevêché d'Aix, pour voir si Mozart était bien à sa place à Aix. Et on a joué Così fan tutte dans des décors de Vakevitch, qui se résumaient à un petit baldaquin rouge, puisqu'il n'y avait pas de décor.
Mais est-ce que c'était le franc amateurisme rigolard? Est-ce qu'il y avait une idée derrière? Est-ce qu'on voulait en faire un monument de ce festival? Ou est-ce que c'était des joyeux copains qui avaient vraiment envie de soutenir la musique?
Je vais vous dire, au départ, ce n'était pas des joyeux copains, c'était une idée qu'on essayait de servir et qu'on avait mis entre les mains de celui qui allait devenir le directeur du festival pendant ces grandes années du début, c'est du Surget. Et c'est du Surget qui, à partir de cette expérience réussie, a changé le caractère du festival en quelque chose de plus professionnel et a fait la fameuse grande ouverture du festival avec Don Juan et un Don Juan de 22 ans, ce qu'on n'avait jamais vu sur scène. Et à partir de ce moment-là, pendant un certain nombre d'années, le festival a été vraiment le rendez-vous des copains. Des copains professionnels, mais qui avaient quand même encore le temps de traîner sur le cours Mirabeau, de parler, de se retrouver parce que le rythme de production du festival s'y prêtait. Et il n'en demeurait pas moins que c'était des professionnels complets. Quand on dit que Don Juan a été mis en scène par Jean Meyer de la Comédie Française dans des décors de Cassandre, mais il se trouve que Cassandre était le meilleur copain, mais intime, de Balthus, qui lui, une année après, a fait Così, tout en reprenant le Don Juan, et qu'ensuite est arrivé De Rhin pour faire l'enlèvement au sérail et le barbier de Séville.
C'était des amitiés dans la rigueur. Maintenant, ce n'est plus la même chose?
Je pense que ça n'est plus du tout la même chose parce que le festival est devenu un des plus grands, je crois, le plus grand festival lyrique de France. et que le rythme de la production s'est a doublé, triplé. On a fait, dans ces dernières années, jusqu'à 4 productions sur une seule scène. Donc, tour de force de Herlaut, d'arriver à ce que tout ça tourne.
Enfin, ça facilite pas les discussions qui n'en finissent pas au cours Mirabeau.
Absolument, vous avez complètement raison. Ça s'est professionnalisé, les sponsors reçoivent, et c'est leur joie. Et on va à des réceptions qui sont données par les sponsors, qui sont très belles. Mais avant, c'était des tête-à-tête rigolards, il n'y a pas d'autre mot, entre Balthus, Derain, Clavé, qui était un rigolo qui a fait des Noces de Figaro que la moitié du public ont hué. Ils s'en foutaient d'ailleurs. Et c'était des grandes séances de rigolade une fois le travail fini. Bien sûr, c'est un autre temps, il ne faut pas pleurer là-dessus. C'est devenu, puis on ne peut plus jouer avec l'art lyrique qui est devenu trop coûteux. À l'époque, c'était déjà assez la corde raide sur le plan, disons, de l'argent. Mais les amis étaient prêts à tout. Ils aimaient surtout ce qu'ils faisaient.
Alors, le premier choc, c'est Don Juan.
Choc fantastique pour moi. Ça a été, je crois, n'avoir jamais apprécié un opéra autant que celui-là. Peut-être par la perfection des décors de Cassandre, l'admirable distribution et surtout le chef d'orchestre, Rosbaud, qui était à la fois un être de rigueur au point de vue musical, un être humain adorable, rigolo comme c'est pas possible, alors qu'il avait l'air d'un vieux tartuffe allemand. Et je me souviens que l'habillage de Rosbaud en habit pour les soirs chauds, dont tout, dont le faux col, les manchettes à mi-donner, et le gilet blanc, tenait avec des élastiques dans le dos parce qu'il ne mettait pas de chemise, parce qu'il avait trop chaud. Donc je veux dire, on riait sans arrêt. Et il y avait des blagues. Par exemple, Clavé est apparu déguisé dans le dernier acte des Noces de Figaro, quand tout le monde est déguisé, n'est-ce pas ? On pouvait faire ça.
Mais
encore.
Le public était peut-être plus ludique à cette époque-là. Maintenant, il est très sérieux, il est très mondain, il est très responsable.
Je crois que surtout qu'il
est presque aussi pro que les pros qui sont sur scène, ceux qui écoutent.
Qui est plus grave dans ce que vous dites, et c'est terriblement vrai, c'est qu'hélas, le public lyrique d'aujourd'hui se considère un pro parce qu'il a les disques. Et qu'au lieu d'écouter la musique, ce qui est la plus belle joie du monde sous ce ciel étoilé d'Aix, sans un bruit, c'est un endroit magique au point de vue acoustique, au lieu de regarder cette musique, de l'écouter et d'en jouir, il dit « j'ai le disque numéro tant, interprété par Madame X, c'est moins bien ». C'est un rapport avec la musique qui m'est totalement, totalement inconnu. J'écoute et je me dis, il y a quelques personnes qui chantent mieux que d'autres, mais après tout, il fut un temps où la musique était de la musique chez soi et dans lequel il y avait une quantité d'amateurs. Moi, j'adore la musique d'amateurs. Et quand je ne fais jamais un rapport entre Aix et Salzbourg, Aix et tel enregistrement. Ça me paraît totalement vain et un peu ridicule.
Alors, Don Juan, c'est quand même aussi une histoire. Est-ce qu'elle vous étonne encore ? Est-ce qu'elle vous fait trembler encore ?
Ouais,
c'est toujours pareil. Est-ce que vous êtes encore capable d'émerveillement alors que Don Juan, vous connaissez depuis un moment ?
Je connais pratiquement par cœur. Je pense que c'est un des plus beaux livrets du monde, que Lorenzo da Ponte est probablement le plus grand librettiste du monde, avec, il y en a très peu qui soient à sa hauteur. Et que ça reste une surprise, chaque fois qu'on l'entend, on entend autre chose. Et je l'ai entendu, y compris dans les mises en scène modernes et scandaleuses de Peter Sellers. Donc je veux dire, je connais très très bien Don Juan, et j'adore, je veux dire, chaque fois qu'on entend le cri dans Don Juan, de la petite Zerline en train vraiment d'être entraînée dans un sorte de casinetto par Don Juan, et son cri au secours, le cri du viol, c'est une chose bouleversante.
On l'écoute et on écoute ce que vous avez chez vous dans votre discothèque privée qui date, je crois, de 1950, non ?
Pratiquement, je crois qu'on a refait des enregistrements, on a remis au propre, si je puis dire, les enregistrements de Rosbaud. Mais moi, ce que j'ai moi, ce n'est que les enregistrements de Rosbaud. Parce que je trouve qu'ils ont une fraîcheur, qu'ils sont absolument intacts. Ils ont justement ce côté ludique, vous avez dit le mot, ce côté ludique qui disparaît de l'art lyrique à cause du poids du fric. Ça coûte si cher qu'on ne peut plus rire. Il faut absolument amortir, il faut que le théâtre soit plein. Si ça n'est pas plein, si la critique n'est pas triomphale, c'est un désastre financier. Tout ça abîme terriblement le plaisir. Le plaisir est par définition gratuit. Hein.
Mille torpidi pensieri.
Charleroux, Don Juan, c'est quand même un homme qui a peur de la mort et qui s'abîme dans l'amour pour oublier que la mort va arriver. Rien à voir avec vous.
Ah, je sais pas, c'est vous qui le dites, mais vous ne me connaissez que superficiellement à travers nos rendez-vous nocturnes qui se répètent. Mais la domination de la mort, il n'y a pas un écrivain qui y échappe. Et la provocation fantastique de Don Juan qui provoque la mort. Parce qu'enfin, s'il n'invite pas le commandeur chez lui, il ne meurt pas. Et il insiste, et Leporello lui dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il hurle à son maître, dites-le non. Et il appelle la mort et il meurt. Donc je veux dire, le personnage de Don Juan est fascinant.
C'est aussi, on revient encore à l'idée de romantisme, se donner la mort d'une certaine manière, c'est très romantique, ne pas attendre que la mort arrive.
Oui, c'est formidable. C'est d'ailleurs un opéra qui est en avance de 2 siècles. Il n'y a pas d'opéra plus moderne que Don Juan. D'où l'envie qu'ont tous les metteurs en scène d'aujourd'hui de le mettre en blue jean. Ce qui, d'ailleurs, Il est excellent en blue jean. Il tient le coup en blue jean. Ça jouait dans le Bronx de New York. Même, hein. Formidable.
Alors, il y a les Cosy Dex. Et vous les avez aussi presque tous vus, j'imagine.
C'est-à-dire que c'est moi qui ai amené Balthus à Aix. Et qui est né de Reims. Qui lui a...
J'espère que vous avez encore les décors, parce que vu ce que coûte Balthus aujourd'hui...
J'ai deux maquettes, oui. J'ai deux maquettes de Balthus, de costumes.
Mais c'est fini, ça, que des peintres monumentaux fassent des décors comme ça.
Oui, je pense parce que c'est si personnel, tellement personnel, que ça a de très grandes chances de déplaire au public et qu'on ne peut plus prendre ce risque. Voilà, il est vrai que les trois décors dont nous venons de parler, pas celui de Cassandre peut-être, parce qu'il était très, très classique, superbement classique, génial, admirable. Cassandre est un immense décor. Comme on dit en anglais, you couldn't say no. Vous ne pouviez pas dire non, c'était collé à Mozart. À partir du moment où on a fait venir de Reims, deux décors, Barbier, enlèvement, Balthus, Cosy, Clavé, les Noces de Figaro, le risque était énorme. Parce que eux, c'était un de Reims sur scène. Un de Reims, la vision de Reims, de Mozart par de Reims.
C'était un metteur en scène supplémentaire, en fait, l'homme du décor.
Absolument. D'ailleurs, avec des exigences énormes et tout le temps là. Il faut savoir que les décors auxquels nous faisons allusion ont tous été retouchés de la main du peintre. Ils ont repeint leurs décors sur scène. Les instruments de musique étaient faits par le peintre.
Il y a peut-être un peu trop d'orgueil maintenant partout, hein, chez le metteur en scène.
Je crois.
Chez le peintre qui ne veut pas s'abaisser à faire un décor qu'on ne remarquera pas, ou moins que la mise en scène. Est-ce qu'il n'y a pas aussi maintenant un manque d'humilité de tous les corps de métier, entre guillemets ?
Je ne sais pas à quoi ça tient, je sais qu'il n'y a plus de risque. Que s'adresser à des peintres aussi marqués que ceux-là, avec une telle manière personnelle, personne n'ose.
J'ai l'impression quand même que vous reprochez à Aix d'aujourd'hui de ne plus avoir la possibilité de prendre de vrais risques.
Je vais vous dire, je ne peux rien reprocher à Aix parce que je fais partie du conseil d'administration d'Aix et que donc j'ai tout approuvé. Je parle de l'art lyrique en général, je ne fais pas une chose particulière de Aix. Je crois qu'il y a certains risques qu'actuellement le prix du lyrique interdit et qu'on ne peut plus demander à personne de se ruiner pour un opéra. Je crois qu'il faut vivre avec son temps et qu'il faut bénir l'époque où le lyrique est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire remplissant des salles. Plus que ça, je ne peux pas dire. Je sais que les plus grandes émotions lyriques que j'ai eues, ça a été de très grands opéras à travers de très grands peintres.
Alors, Cosy, quel est le disque ou l'enregistrement qui triomphe dans votre discothèque privée de Mont-Charleroux ?
Une fois de plus, l'enregistrement avec la distribution de Rosbaud.
Mais enfin, vous n'allez quand même Teresa. Pas rendre hommage à Rosbaud pendant toute cette émission.
Je ne peux pas faire autrement puisque c'est ce que j'ai. Vous me demandez de vous dire les disques que j'ai, je ne peux pas vous dire les disques que j'ai.
Il y a une raison si vous les avez.
C'est certainement une raison sentimentale puisque mon approche de l'art en général passe à travers à travers les artistes plus qu'à travers la réalisation elle-même. Pour moi, toute ma vie, Don Juan aura le visage de Capecchi. Et le costume superbe de Cassandre, puisqu'il l'avait habillé dans une époque qu'on n'avait jamais vue sur scène, qui est celle comme ça, des merveilleux.
Cosy ?
Cosy, toujours à travers Balthus, et la fameuse scène, toutes les scènes les plus... Les costumes qui étaient à hurler de rire, les déguisements albanais, quand les amants arrivent sous un faux costume pour tromper leur maîtresse et avoir la preuve de leur inconstance... puisqu'elle tombe dans les bras du Turc et de l'Albanais, et que les deux amants mortifiés, à un certain moment, se suicident, les gens riaient aux éclats.
On va l'écouter, peut-être.
On va l'écouter.
Amico, abbiamo vinto!
Bravo!
Una cinquina, amico, gli ordigi e la modestia in carne. Una come colomba, il suo caro Guglielmo, ella si serva. Mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi messaggio, che una femmina è lei senza paraggio.
Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascia un po' più t'abbracci per semplice augurio, o mio fido Mercurio.
E la mia Dolabella come si è diportata? Oh. Non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibilità. Ella non ama, non adora che me.
Certo, anzi in prova di suo amore, di sua fede, questo bel ritrattino ella mi diede.
Il mio ritratto! Oh!
stupida. Ove vai? A trarre il cor dal scellerato petto di a vendicar il mio tradito affetto.
Fermati!
Non mi lascia!
Sei tu pazzo? Vuoi tu precipitarti per una donna che non val due soldi?
Non vorrei che facesse qualche corbelleria.
Lumi tante promesse e lacrime e sospiri e giuramenti in si pochi momenti come l'empio oblio.
Per patto io non lo so.
Che fa di ordeggio a qual partito, a qual idea m'affiglio?
Abbi di me pietà, dammi consiglio.
Amico, non saprei qual consiglio te dar.
Barbara, ingrata, in un giorno, in pocore.
Certo un caso questo da far stupore.
Donne mie, la fate a tanti, a tanti, a tanti, a tanti, a tanti. Che se il perfide giovir, se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io va bene al sesso vostro, lo sapete e ognuno lo sa, ogni giorno ve lo mostro, ve lo mostro, ve lo mostro, vi do segno d'amistà. Ve lo mostro, ve lo mostro, vi do segno d'amistà, vi do segno d'amistà. Ma quel parla tanti, a tanti, a tanti, a tanti, ma finisce in verità, ma finisce in verità.
Mille volte il brando presi per salvare il vostro onor, mille volte, mille volte, mille volte vi difesi con la bocca più col cuore. Ma quel parla tanti, a tanti, a tanti, a tanti,
è un vizietto seccator, è un vizietto seccator.
Siate vaghe, siate amabili, gran tesoro il ciel vi dia, e le grazie mi circondano dalla testa fino ai piedi, dalla testa fino ai piedi.
Mamma, ma, la fate a tanti, a tanti, a tanti, a tanti.
E se gridano gli amanti, hanno certo un gran perfume.
Ma la fate a tanti, che se gridano gli amanti, hanno certo un gran perfume.
Un gran perfume.
Perché? Perché? Perché hanno certo un gran perfume. Perché? Perché? Perché hanno certo un gran perfume.
Un gran perfume. Un gran perché, hanno certo un gran perché.
Edmond Charleroux, Così fan tutte, c'est un peu votre opéra, c'est un peu la comédie humaine.
Et c'est un peu aussi la comédie italienne.
Alors, mais le résultat de tout ça, c'est que Mozart nous dit « L'homme n'est pas fidèle, mais la femme est légère ». Vous trouvez que c'est une bonne conclusion ? Un bon résumé.
C'est encore une fois l'essence même d'un livret de théâtre génial. C'est une vraie merveille. On pourrait lire sans écouter la musique. La scène, ce genre d'éducateur qui est là, qui a d'ailleurs été chanté à Aix plus tard par Vandamme. C'est un magnifique rôle. Je crois que c'est très beau, quoi. Ce sont des œuvres littéraires.
Est-ce que vous êtes d'accord avec les conclusions de Mozart ? L'homme n'est pas très fidèle et la femme est légère aussi.
Complètement. C'est une certitude absolue. Et elle est illustrée là, dans le rire et les larmes. D'ailleurs, la beauté de Così fan tutte, c'est que c'est un opéra qui se présente comme un opéra léger, mais on est tout le temps entre rire et larmes.
Comment fait-on, Edmond Charleroux, pour aimer un homme quand on sait que dans la condition de l'homme, il y a la légèreté, l'infidélité ?
Et je vous répondrai... Mon cher ami, qu'est-ce que serait l'amour s'il n'y avait pas de risque ? Ce serait un abonnement, donc très ennuyeux. Bon, évidemment qu'il y a un risque fantastique, qu'on sait que l'homme n'est pas fidèle, bien sûr, et que l'homme sait parfaitement que la femme est légère, mais c'est la beauté de l'amour. Si c'était encore une fois un abonnement, on s'ennuie à mourir. Mais quand c'est un jeu, qu'on se dit est-ce qu'il tiendra, est-ce qu'il restera fidèle, combien de temps, est-ce que je suis capable qu'il soit fidèle longtemps, alors là, il y a quelque chose, il y a un jeu.
Vous aimez ça, hein ?
Ah, moi j'aime que le ludique, j'aime que ce qui est osé, ce qui n'est pas sûr, tout ce qui est habitude. Alors là encore, nous pouvons citer Cocteau. Préservez-nous de la roue morte des habitudes. L'habitude, c'est la mort.
Vous alliez, Edmond Charleroux, avec Gaston Defer à Aix. Il vous est arrivé d'assister à des répétitions, d'avoir des souvenirs communs d'Aix.
Nous n'avons pratiquement jamais raté le festival d'Aix. Nous étions à Aix, on savait, on bloquait dans le mois de juillet, 15 jours, dans lesquels on ne prenait pas d'engagement pour pouvoir, dans toute la mesure du possible, aller, sinon à la première, à la deuxième représentation, et c'était la fête. Pour moi, Aix est la fête, elle est toujours la fête. Et là, j'ai un temps bloqué qui a été au cours du mois de juillet, j'ai tout écouté. Parce que je ne rate pas Aix, c'est mon plaisir, ma joie, mes vacances.
L'enlèvement au sérail est aussi sur vos étagères.
Bien sûr, ça a été un enlèvement au sérail absolument extraordinaire, avec une toute jeune chanteuse qui avait été trouvée en Espagne, une débutante, qui avait été trouvée en Espagne par Dussurgé, qui s'appelait Morales, et qui a arrêté sa carrière, et qui était une constance divine. Et c'était enchanteur, et puis alors là, on riait comme des fous. Il y avait, si j'ai bonne mémoire, Marcello Cortis dans le rôle d'Osmine, c'était à hurler de rire. Et Pierre Bertin, qui ne disait pas un mot d'allemand, qui faisait la mise en scène, et qui tenait le rôle du sultan, du pacha. Et qui était, son allemand était... Là aussi, pour les gens qui connaissaient, on ne comprenait pas un mot. De Reims fâché, tout le monde se disputait, ils ont été brouillés pendant toute une partie de la représentation, et tout finissait sur le cours Mirabeau, la nuit, assis en disant des choses épouvantables. C'est fou ce que tu as été mauvais, c'est pas possible de parler allemand comme toi. Eh bien, c'est De Reims qui est un emmerdeur, répondait Bertin. C'était la fête, la vraie fête.
Thank you.
Edmond Charleroux, les après-concerts sont très importants quand on a la chance de pouvoir les vivre. Est-ce que vous avez appris des personnages que vous avez pu rencontrer à Aix? Est-ce qu'il y a des rencontres que vous n'oublierez jamais?
Oui, absolument. Je pense que là aussi, il faut parler peut-être en termes de ce qui vous a influencé pour le reste de votre vie ou qui a été déterminant dans vos choix. Rencontre déterminante avec du Surget, qui pour moi a été un génie, qui a fait un travail génial. Rencontre déterminante avec les peintres que j'ai amenés moi-même, parce qu'ils étaient mes amis, leur expérience. Rencontre déterminante avec Rosbaud, qui a été pour moi un des chefs que j'ai le plus admiré, qui n'était pas un chef célèbre. Pas, il ne faut pas s'imaginer que nous sommes en train de parler du Toscanini de ces années-là. Pas du tout. Toscanini était internationalement connu. Je l'ai beaucoup connu moi-même.
Et vous avez eu des discussions avec d'autres amateurs de musique?
Eh bien d'abord, c'était fantastique d'entendre la musique à travers la parole des peintres. C'est déjà quelque chose. Et puis, il ne faut pas oublier que Aix était le rendez-vous des écrivains. Mauriac a suivi le Festival d'Aix pendant au moins 3 ans. Ses réactions étaient passionnantes. On n'attendait pas le lendemain de lire le Figaro pour savoir ce que pensait, puisqu'on entendait Mauriac. Il s'est passionné pour le personnage de Capet, mais ça a été pour lui un grand moment. C'était un Don Juan à travers un jeune homme follement séduisant et jeune. Donc c'est très important, je pourrais dire que Clavet a été très important dans ma vie aussi.
Alors c'est étonnant, vous ne parlez pas beaucoup des chanteuses, or vous auriez pu l'être puisque vous avez pris des cours et que vous aviez une voix.
Oui, je crois que là aussi, par exemple, Teresa Stichrandal a été pour moi une découverte. Je n'avais jamais entendu, elle était très drôle en plus et très gaie. Et on terminait toujours avec les chanteurs. J'ai quand même longuement parlé de Capecchi, qui pour moi, Marcello Corti, c'était un ami.
Il a fait quasiment. Vous vous êtes jamais dit, en voyant ces gens triompher sur scène dans leur art qui aurait pu être le vôtre, vous êtes jamais dit, je suis passé à côté de quelque chose, j'écris d'accord, mais eux.
J'ai passé 3 ans de ma vie à étudier le chant avec Gisèle Perron, dans des conditions très difficiles. C'était sous l'occupation. Il fallait faire un voyage en train qui me conduisait jusqu'à Saint-Raphaël. Ce qui n'était pas la porte à côté, en mangeant très peu, très mal. J'ai quelqu'un qui était en plus économiquement très, très limité, par amour du chant. Donc j'ai
oui,
beaucoup
rêvé.
Mais
vous n'avez rêvé. Pas triomphé grâce
au
chant.
Je n'ai pas triomphé parce que je me suis arrêté avec la guerre et que je n'ai pas repris après. Et d'ailleurs, je ne pense pas que j'avais un très beau timbre de voix, très exceptionnel, mais une étendue de voix insuffisante. Donc je ne regrette pas. Maintenant, j'ai la joie, c'est d'écouter les autres. Franchement, je ne suis pas là à l'opéra en train de me dire misère de malheur, c'est pas moi. Franchement, ça ne traverse pas mon esprit.
Nous devons nous séparer, Edmond Charleroux, et puisque nous parlons d'Aix et que vous allez y aller, y retourner, quelle œuvre doit conclure notre série d'entretiens et votre clin d'œil à Aix? On peut dire que vous avez vécu avec Aix pendant quoi, 40 ans?
Je crois que quitte à décevoir les auditeurs en sortant quelque chose qui, cette année en particulier, et comme un lieu commun, évidemment, c'est identifié avec Mozart. Il n'y a pas de décor plus mozartien qu'Aix, et je vais plus loin, c'est beaucoup plus mozartien que Salzbourg. C'est Mozart chez lui. Je crois qu'on ne peut pas terminer une conversation sur Aix en Provence sans donner la primeur, si je puis dire, et le mot de la fin à Graziella Sciutti dans le rôle de d'Espina. La soubrette de Così fan tutte, parce que c'est une découverte du Surget, qu'elle a fait ses débuts à Aix et qu'elle est devenue une des plus grandes chanteuses de notre époque. Et l'entendre dans l'air où elle fait ses comptes, où elle juge ses patronnes dans leur légèreté, leurs excès, leurs amours, leurs amants. Je crois que c'est à elle qu'il faut donner le mot de la fin.
Elle s'amuse de l'amour et dans l'amour.
Absolument.
C'est bien terminé dans l'amour et l'humour, non?
Je crois que c'est indissociable pour moi, mais et que donc nous terminons très très bien.
Vous êtes contente de cette semaine?
Moi, je suis enchantée. Je vous remercie beaucoup.
Merci Edmond Charleroux.
Merci à vous de m'avoir permis de voyager avec une valise à double fond.
Je croyais que vous alliez dire de m'avoir supporté pendant 5 jours, non?
Peut-être que c'est vrai aussi. Sicurato nelle regole ordinarie,
vostri. Lo so con Dio.
Questo istante tornerà a Dio e dalla viva.
Vous avez entendu ce soir Don Juan de Mozart, dirigé par Hans Rosbaud, enregistré en 1956 avec les artistes et chœurs d'Aix-en-Provence, puis Così fan tutte, dirigé par Hans Rosbaud, enregistré le 27 juillet 1957, toujours à Aix-en-Provence, puis deux airs de Constance de l'enlèvement au sérail de Mozart avec Teresa Stitch-Randall, dirigé par Hans Rosbaud et enregistré le 11 juillet 1954 à Aix-en-Provence. Et enfin, Così fan tutte de Mozart, l'air de Despina avec Graziella Schutti, direction Guido Cantelli et l'orchestre et chœur de la Scala. C'est avec ces œuvres que nous allons refermer la discothèque privée d'Edmond Charleroux en la remerciant et la laissant seule avec son ami la musique fermer les volets de son appartement marseillais. Il est presque tard, alors bonsoir.
Daniel Schick accueillait dans son émission Discothèque privée l'écrivaine et journaliste Edmond Charleroux en juillet 1991. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette archive sont à retrouver sur le site francemusique.fr ou sur l'application Radio France. Merci à Béatrice Trichet qui était à la réalisation ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.